Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et l'invité politique des débats d'Europe Soir ce soir, c'est la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonsoir Amélie de Montchalin.
Bonsoir.
Et bienvenue, merci de nous accorder à Alexandre Devecchio du Figaro et moi-même trois quarts d'heure de votre temps, un dimanche soir où beaucoup de Français nous écoutent, vous écouteront parler de cette grande famille que sont les agents publics dont vous avez la charge, mais aussi de tous les sujets d'actualité, du bilan de ce quinquennat Macron que vous voudriez, j'imagine, voir redoubler en avril. Actualité du président, justement. Et je m'adresse un peu à l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires européennes. Emmanuel Macron se rend à Budapest demain. On a bien fait le packaging. Ce n'est pas une visite officielle pour voir Viktor Orban, mais une réunion du groupe de Visegrad, les quatre pays de l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, concrètement, le président Macron, à part... je sens ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, il va dessiner les contours de la présidence de l'UE, très bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire exactement là-bas à Budapest ?
Il va faire ce qu'il fait depuis maintenant 4 ans, c'est-à-dire de mouiller la chemise pour que sur les sujets européens, eh bien, nous avancions. Mm-hmm. Parce que c'est le premier président de la République, je pense, depuis très longtemps, peut-être même le premier, qui a fait de l'Europe un levier et non pas un sujet dont on parlait vous voyez, dans les moments symboliques pour en dire du bien. Et puis dès que c'était plus symbolique, pour au fond qu'il n'y s'y passe plus grand-chose.
Vous voulez dire qu'avant c'était de la façade, on parlait du couple franco-allemand, un peu comme d'une image d'Épinal, et qu'en réalité derrière il se passait rien.
Ce qui est sûr, c'est que je crois que beaucoup d'hommes politiques en France ont eu une relation ambiguë avec l'Europe.
C'est-à-dire
qu'il fallait soutenir le projet européen, mais pas trop. Il fallait s'y engager, mais pas trop, parce qu'il y avait toujours cette idée que c'était suspect, que la souveraineté française, il fallait la regarder entre nos propres frontières. Ce que le président de la République depuis 2017 a fait, et j'ai eu la chance notamment en tant que ministre des Affaires européennes de son gouvernement, et ce qui était un grand honneur, de voir comment on se mettait au travail pour créer des accords, là en l'occurrence vous voyez avec les quatre pays du groupe dit de Visegrad, comment on travaille à ce qu'en se mettant d'accord d'abord à 4, puis à 5, on arrive ensuite à être d'accord à 27.
Et comment
on arrive du coup à être d'accord sur des sujets complexes, sur les migrations, sur évidemment la transition écologique, sur les sujets industriels. Et donc, aller demain à Budapest, il aura fait le tour de toutes les capitales européennes depuis 4 ans, c'est se dire qu'il n'y a pas de fatalité, mais que pour que les choses avancent, il faut, comme je le disais, mouiller la chemise, il faut s'engager, et c'est ce qu'il fera encore demain.
On note l'image de mouiller la chemise. Alexandre Devecchio.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de se mettre en scène dans la campagne présidentielle en allant voir Orban et de montrer son opposition dans le cadre de la campagne présidentielle à ce qu'on appelle les populistes, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui ont été eux-mêmes chez Viktor Orban?
Je ne crois pas du tout qu'on soit en train de mélanger deux agendas. Aujourd'hui, une des premières priorités de la présidence française qui va s'ouvrir, c'est la taxe carbone aux frontières. C'est les sujets de révision du pacte de Schengen. Et donc, c'est des sujets qui, notamment dans ces pays dits du groupe de Visegrad, sont des sujets que les présidents, les premiers ministres de ces pays ont pris à bras-le-corps, parfois avec des positions qui ne sont pas celles de la France au départ. Et donc, évidemment que certains font de la politique, vous voyez, des enjeux de photos, où en se mettant à côté de tel ou tel, on dirait des choses aux Français. Il y a des sujets sur lesquels le président de la République et Viktor Orban ne sont pas d'accord. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin, de toute façon, parce qu'on travaille à l'unanimité, de se mettre d'accord pour que ça avance. Et donc, évidemment, quand je vois que certains font de la mise en scène, ils jouent à nouveau de l'ambiguïté européenne.
Mais vous n'êtes pas Madame Irma, mais comment on fait justement pour que tout le monde soit d'accord ? Enfin, il y a un mode d'emploi pour les pays de Visegrad et en particulier pour Viktor Orban ?
Vous savez, à un moment donné, on a trouvé un accord sur la neutralité carbone d'ici 2050 à 27 pays de l'Union européenne. On l'a trouvé avec la Pologne, qui dépend beaucoup du charbon.
Du charbon, oui.
Comment on trouve cet accord ? On essaie de voir quels sont les freins réels pour ce pays d'obtenir la neutralité carbone. On regarde qu'est-ce que ça coûte en transition industrielle, en transition sociale. Et donc, on fait face à la réalité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui sont plus faciles que d'autres ? Là, en l'occurrence, les questions de migration. Et je profite de cette monstrueuse, effrayante actualité d'il y a quelques mois et quelques semaines et qui est encore en cours. On n'en parle pas parce qu'on parle beaucoup de la campagne présidentielle. Mais en attendant, la question de ces migrants à la frontière polono-biélorusse n'est toujours pas réglée. Comment est-ce qu'on fait pour régler, par exemple, ce problème-là ?
Mais vous avez dit le mot-clé. C'est que si vous cherchez la facilité, vous ne faites ni ce qu'a fait le président en Europe, ni ce qu'il a fait en France. Si vous dites que la politique, c'est au fond de s'engager que dans les combats qui sont gagnés d'avance, vous n'allez pas effectivement dans un pays où on a des sujets sur l'état de droit, on a des sujets sur évidemment le respect de toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, les droits LGBT. Et évidemment, le président, vous savez, pour l'avoir vu travailler pendant ces 4 années au niveau européen, on met les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être dans la réalité des débats. Si vous n'allez que pour la facilité, ben on a vu ce que ça donne. C'est une France qui a perdu de la puissance, c'est une France qui a perdu de l'influence. C'est pas ce qu'on a fait depuis 4 ans. Et on a regagné pas à pas. Je vous rappelle un autre débat qui n'était pas gagné d'avance. Le sujet du plan de relance européen. Mmh. Heureusement qu'on a un plan de relance européen.
Il y avait un contexte quand même qui permettait un souffle.
Oui, ben, enfin le contexte, je vous rappelle, si vous regardez, il y a un peu plus d'un an et demi, évidemment que tout le monde disait c'est un combat perdu d'avance, l'Allemagne ne dira jamais oui, les fameux pays nordiques n'iront pas. Les pays frugaux n'iront pas. Je suis même, je crois, venu vous en parler.
Sur les pays d'Europe centrale, pardonnez-moi. Alexandre de Vecchio. Le président de la République, je me souviens, avait parlé de lèpre populiste au sujet de Viktor Orban et des Polonais. Il n'y a pas si longtemps, quand les Polonais voulaient affirmer la primauté du droit polonais sur le droit européen, le président de la République s'y était vigoureusement opposé. Est-ce que il est toujours dans cette logique-là? Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire avancer les choses que de traiter les gens de lépreux?
Alors, le président, il est allé à Varsovie et il a tenu un discours très ferme sur ce qu'était l'état de droit. C'est-à-dire, au fond, pourquoi on a mis l'état de droit au cœur de notre politique européenne? Parce qu'on considérait qu'après la guerre, après les régimes notamment communistes, qui avaient laissé peu de liberté individuelle et peu de liberté collective, protéger la démocratie, protéger la liberté individuelle, c'était des valeurs auxquelles on croyait, pas pour faire joli, mais parce que ça protège réellement la vie humaine. Et quand il était à Varsovie, il y a quelques mois, il avait tenu à la fois un discours très ferme et très transparent vis-à-vis de la population, notamment à l'université, puis il avait aussi échangé évidemment avec les dirigeants. Mais on peut avoir des désaccords très fermes, poser des lignes rouges très fermes, et considérer par ailleurs qu'on a encore le droit de se parler, parce que sinon ça veut dire que c'est une Europe... Et ça a été d'ailleurs le choix pendant des années de cette ambiguïté dont je parlais.
Mais le
quand
fait
vous,
que les,
un, quand
le
vous
fait
n'assumez
que les
pas
Polonais,
votre position,
le fait que les Polonais défendent leurs frontières finalement et leur souveraineté finalement, est-ce que ça ne vous arrange pas? Ils défendent la frontière de l'Europe.
Mais là
en
vous
ce
mélangez
moment,
deux sujets.
Les Polonais.
Il y a un enjeu de frontières extérieures de l'Union européenne qui sont des frontières de l'Union européenne et sur lesquelles vous savez que toute l'Union européenne a considéré que c'était légitime d'éviter que, en l'occurrence, un dictateur biélorusse se serve d'hommes et de femmes à des fins politicienne et de déstabilisation.
Donc l'Europe n'a pas considéré ça. Ursula von der Leyen n'avait pas tout à fait le même discours.
Elle a eu un discours qui consistait à dire à la Pologne qu'on était prêt d'ailleurs à soutenir la Pologne dans son effort pour défendre une frontière européenne. Et puis il y a un autre sujet qui est, est-ce qu'on considère que les juges doivent être au fond dépendants d'un pouvoir politique? Est-ce qu'on considère que c'est normal que des personnes en raison de leur orientation sexuelle, des droits LGBT soient potentiellement empêchées de se déplacer librement sur un territoire? Et là-dessus la France est très claire aussi. Et vous voyez, c'est ça faire face à la réalité. C'est de considérer qu'à la fois en Europe et à la fois en France, il n'y a pas des réponses magiques. Il n'y a pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous pouvez juste vous dire qu'ils n'existent plus. Ils sont toujours devant vous. Et si vous voulez faire avancer l'Europe, vous devez composer, vous devez être clair sur certains sujets, vous devez faire pression sur d'autres. Et vous devez ensuite pouvoir aussi trouver des accords sur des sujets importants dans l'intérêt collectif.
Autre question d'actualité, Amélie de Montchalin, elle concerne le Covid. Hier, Jean Castex dit qu'il faudrait vacciner tous les enfants de 5 à 11 ans. Il a d'ailleurs pris l'exemple personnel de sa fille qui l'aurait contaminée. Ce matin, Olivier Véran, dans Le Parisien, dit on se limite à ceux qui ont des comorbidités. Il est établi que les enfants sont des vecteurs de contamination. Est-ce qu'on a décidé quelque chose en France à 12 jours de Noël?
Alors, on a dit toujours la même chose, qu'on était favorable à la vaccination, qu'on était évidemment favorable à la vaccination à partir du moment en particulier où les autorités sanitaires indépendantes étaient d'accord et nous organisaient ou nous proposaient la manière de faire. Mmh. Donc, on est favorable à la vaccination, c'est ce que dit le Premier ministre.
Mais on attend ce que dit la HAS.
On attend effectivement les orientations de cette haute autorité de santé pour organiser cette campagne, pour la faire au bon rythme, pour prioriser aussi, eh bien évidemment, ceux qui sont le plus à risque. Et c'est pour ça que dans quelques jours et semaines maintenant, les enfants qui souffrent de maladies chroniques, qui ont eux-mêmes des maladies graves, seront prioritaires et que nous attendons l'avis de l'autorité de santé pour voir comment pour les autres enfants, sur la base toujours du volontariat, puisque c'est le choix que la France a fait, nous pouvons eh bien, aller plus loin si la haute autorité de santé nous l'autorise.
Je reviens à l'Europe. L'Autriche a donné le go pour tous les enfants. J'imagine qu'il y a une autorité de santé en Autriche qui doit être à peu près similaire à celle de la France. Pourquoi est-ce que, alors qu'on est dans l'Union européenne, on est tous ensemble avec tous les pays de l'Union européenne, pourquoi est-ce que chacun devrait décider avec sa propre haute autorité de santé pour donner le go pour ce genre de vaccination?
Parce que depuis le début, il y a les hautes autorités nationales. Ensuite, il y a un consensus européen qui se dessine et c'est comme ça qu'on a fait réussir.
C'est un millefeuille administratif.
Non, c'est, vous voyez, on parlait de souveraineté, c'est qu'il y a les échelons nationaux, les échelons de coordination européenne. Et si vous regardez la campagne vaccinale en Europe, on a été sur ce sujet-là, je crois, on a fait beaucoup de progrès entre le début de la crise où chacun parlait de son côté et aujourd'hui. Ensuite, c'est des choix qu'il faut bien sûr coordonner. Mais je crois que les Français font confiance à la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, la Haute Autorité de Santé rapporte
qu'ils ont pas le choix.
Son avis à la Haute Autorité européenne.
Sur les enfants, vous êtes favorable à la vaccination, mais sous couvert que les parents, je suppose, soient d'accord. Est-ce que vous nous garantissez qu'il n'y aura jamais de passe sanitaire pour les enfants de 5 à 11 ans?
Aujourd'hui, on a toujours été extrêmement clair et on a toujours fait le choix de la responsabilité et du volontariat. Je tiens vraiment à le dire. On n'est pas un pays aujourd'hui qui a une obligation vaccinale. On a fait le choix de la responsabilité
de sanitaire, pas de l'obligation vaccinale.
Et donc aujourd'hui, je peux vous dire, le choix que nous faisons d'abord, c'est de s'assurer que nous protégeons les plus fragiles et que nous mettons avec nous tous les outils nécessaires pour que l'épidémie recule. Donc sur les enfants, il n'est pas question d'instaurer un pass sanitaire sur les enfants. D'abord parce que la décision elle-même de vacciner les enfants n'a pas été rendue publique et n'est pas autorisée.
On suit un process, c'est légitimiste.
C'était si, admettons qu'elle soit autorisée, on va aller jusqu'au bout, parce que comme vous laissez planer quand
vous
même
avez
une ambiguïté.
Donc
si elle est autorisée, vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de pass sanitaire.
Mais aujourd'hui, le pass sanitaire, il a été déployé pour inciter les personnes les plus fragiles, adultes, et en particulier ceux pour qui le bénéfice du vaccin était justifié, à se faire vacciner. Je pense qu'il faut faire dans cette épidémie les choses par étapes. Brandir les peurs, brandir les masques, le pass sanitaire pour les enfants n'est pas la stratégie que nous avons retenue. Et on voit bien d'ailleurs sur le vaccin des enfants, il y a plein d'étapes.
À cette étape. Vous ne l'avez pas retenue à cette étape.
Oui, moi je pense que vous voyez dans l'épidémie, tous ceux qui vous ont dit jamais, jamais, toujours, toujours, ont été des gens qui d'ailleurs, si on les avait écoutés, auraient emmené le pays, à mon avis, à la crise sanitaire encore plus grave que ce que nous avons vécu. Nous avons toujours pris nos responsabilités, toujours été extrêmement transparents. Le pass sanitaire pour les enfants n'est pas d'actualité.
19h28, on marque une pause et dans un instant, on retrouve l'invité politique des débats d'Europe Soir, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et nous retournons avec les débats d'Europe Soir, avec Alexandre Devecchio du Figaro et avec Amélie de Montchalin, la ministre de la Fonction publique. Amélie de Montchalin, vous avez décidé de ne pas dégeler le point d'indice des fonctionnaires pour 2022, ce qui vous a valu la colère des syndicats, la plupart ne voulant pas se rasseoir à la table des négociations. Vous avez expliqué que vous avez en octobre revalorisé tous les agents au-dessus du SMIC, qu'en plus, au 1er janvier, il y aura une revalorisation en fonction de l'inflation. Et donc non, on ne va pas en plus dégeler le point d'indice. Comment est-ce que vous expliquez du coup la colère des syndicats qui ne veulent pas se rasseoir, puisque vous avez déjà expliqué qu'il y avait eu toute cette série de revalorisations?
Vous savez, quand on parle fonction publique, quand on parle transformation de l'État, il faut être bien clair que nous n'avons là non plus pas choisi le chemin de la facilité. Nous avons choisi un chemin qui tient en deux lignes. D'abord, l'efficacité des services publics, et on a aujourd'hui des résultats. Et on a choisi sur l'enjeu salarial, effectivement, de mettre beaucoup de moyens, peut-être des moyens, je pense, inédits, pour revaloriser les bas salaires dans la fonction publique. C'est un choix à la fois de responsabilité et d'efficacité. J'ai pris la décision, avec le Premier ministre et le Président, effectivement, de dire qu'en 2022, nous concentrions nos efforts pour augmenter de 40 à 100 euros le 1,2 million de Français et de Françaises qui travaillent, ce qu'on appelle dans la catégorie C, dans des métiers que
dans
nous
tous publique.
Dans la fonction publique, et qui sont les moins bien rémunérés. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans nos mairies, qui font l'entretien, qui sont dans la collecte des déchets, qui travaillent dans nos écoles, qui sont dans nos hôpitaux et qui travaillent sur des métiers essentiels. Et que toutes les autres options qui étaient sur la table et qui avaient été les options retenues depuis des décennies, ce fameux point d'indice, si on l'avait augmenté comme la tradition de fin de quinquennat nous y invitait, aurait au mieux gagné 5 ou 6 euros de plus par mois. Moi, j'ai fait un autre choix. C'est de dire, pas d'augmentation de général pour tous les fonctionnaires, mais une augmentation ciblée, mais massive, de ces 1,2 million d'agents.
Mais pourquoi sont-ils en colère? Parce que vous avez rompu la tradition? Je reprends votre mot.
Deuxième chose, avant, je vais vous répondre.
J'espère.
C'est que nous avons aussi fait le choix depuis 4 ans de mettre énormément de moyens sur des métiers oubliés. Les métiers des soignants, le Ségur, 10 milliards d'euros, et qui fait des augmentations là aussi de 50, 100, 200, 400 euros de plus par mois. Nous avons revalorisé les jeunes enseignants, les sages-femmes. Bref, des métiers qui avaient été délaissés. Alors, effectivement, les syndicats, on a un débat avec les syndicats, je les réunis, il y a des élections internes chez les syndicats, il y a des revendications qui sont des revendications, entre guillemets, un peu habituelles. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte collectivement...
J'ai l'impression qu'il y a un peu de lassitude quand vous dites
habituel. Non, parce que derrière le point d'indice, il y a un peu un débat de facilité. C'est-à-dire, finalement, en augmentant tout le monde un petit pourcentage, eh bien, on a l'impression qu'on a augmenté les fonctionnaires. Effectivement, c'est une augmentation.
Et elle est générale,
mais
du coup.
Elle est générale. Voilà. Le choix que nous avons fait, c'est de nous assurer que, en 2022, bien sûr, les agents publics vont toucher l'indemnité inflation s'ils ont des revenus en dessous de 2000 euros.
Ouais.
Mais nous mettions tous nos moyens sur les bas salaires. C'est un choix que j'assume par justice sociale, parce que c'est aussi, je pense, un enjeu évident d'efficacité, d'attractivité de la fonction publique. On a les débats avec les syndicats, mais moi, ce soir, vous voyez, je suis devant vous, je ne parle pas aux syndicats, je parle aux Français.
Non, mais ils vous écoutent.
Et je parle aux agents publics qui nous écoutent. Le choix qu'on a fait, c'était de donner du sens au métier, de s'occuper de leur qualité de vie, de leur formation, d'avoir un accord unanime sur le télétravail dans la fonction publique. Aucune entreprise n'a eu, comme nous, dès le 13 juillet, un accord sur le sujet. C'est de s'occuper de l'accès des agents publics à la santé.
Ils y sont sensibles ?
Je peux vous dire que sur le sujet de la santé, ils y sont très sensibles. Ça
en
faisait 15
ils sont
ans,
pas contents, ils claquent la porte.
15 ans que les agents publics qui nous écoutent savent très bien qu'il y avait une grande inégalité entre eux et le reste des Français.
Est-ce que les syndicats
C'est que
sont...
les agents publics qui payent tout seuls leur mutuelle santé.
Monchalin, est-ce que les syndicats des fonctionnaires sont encore représentatifs des fonctionnaires ? Parce que le tableau que vous me dressez là, j'ai l'impression qu'il y a les gens qui ont bénéficié des mesures que vous avez faites et puis les syndicats de l'autre.
Alors, il y a des élections, d'abord fin 2022. Professionnels, où les agents publics vont être invités à choisir qui sont les syndicats qui les représentent. Donc c'est un moment important aussi de représentativité. Ensuite, ce que je vois, c'est que autour de la table des négociations dont vous parlez, parce que moi j'ai aussi annoncé que ce système de rémunération publique aujourd'hui est à bout de souffle. Parce que quand vous parlez du point d'indice, vous oubliez tous les leviers.
Vous dites qu'il faut réformer système de rémunération des fonctionnaires.
Mais en profondeur, c'est essentiel.
Ça s'appelle une réforme structurelle.
C'est une réforme structurelle majeure parce qu'aujourd'hui, en termes d'attractivité, de perspective salariale, de fidélisation, d'équité entre les hommes et les femmes, d'équité entre les ministères, du lien aussi avec les contractuels, sur tous ces sujets-là, le système que nous avons hérité des années 80, il est à bout de souffle.
Et
tout le monde le reconnaît.
Et les syndicats vous disent non, nous on veut le point d'indice.
Certains syndicats disent ça, mais il y a d'autres syndicats qui ont des revendications, qui m'ont demandé depuis des mois qu'on ouvre une négociation en profondeur sur le système. Moi, je suis favorable à ce qu'on prépare ces négociations, à ce qu'on puisse ouvrir ces négociations. Et les agents publics qui nous écoutent, ils savent, ils ont de la mémoire, les dernières augmentations du point d'indice n'ont pas changé leur vie quotidienne dans les proportions où ce que nous allons faire pour les bas salaires va le faire.
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez mis beaucoup d'argent sur le Ségur de la santé, que vous vouliez que les fonctionnaires trouvent du sens dans leur travail. Comment vous expliquez que pour ce qui est du système de santé, les soignants soient démoralisés, qu'ils quittent l'hôpital et qu'il y ait toujours pas, qu'il y ait moins de lits aujourd'hui qu'au début de la crise ?
Je l'explique par cet esprit de réalité. Nous avons hérité d'une situation catastrophique.
Ça fait 2 ans et demi que la crise a commencé.
On a investi le double, là aujourd'hui avec le Ségur d'investissement, de ce que les deux précédents quinquennats ensemble avaient fait, les 19 milliards d'investissements qui vont consister à réinvestir dans les locaux de travail, dans les équipements, dans les outils du quotidien. On s'est annoncé en ce moment, ça ne produit pas déjà ses effets, je le sais. Quand on annonce qu'on supprime le numerus clausus et que nous avons le plus grand nombre de médecins actuellement en formation de l'histoire de notre pays. Évidemment, les médecins, on l'a commencé il y a 2 ans et demi, ils vont être formés et ils seront dans les hôpitaux dans 3, 4, 5 ans, quand ils commenceront à être des internes. Évidemment, aujourd'hui, la situation, je ne vais pas vous dire autre chose, elle est difficile. Elle est difficile parce qu'il y a les enjeux de salaire qu'on a revalorisés massivement, 10 milliards d'euros, ça n'a jamais été fait. Il y a les enjeux d'équipement, d'investissement, on est en train de le faire, de déployer 19 milliards d'euros. Il y a des enjeux ensuite de conditions de travail et il y a des enjeux ensuite de recrutement. Vous savez, aujourd'hui, contrairement à ce qu'était la logique notamment de Xavier Bertrand, qui avait instauré la fameuse tarification à l'acte, le verrouillage budgétaire de l'hôpital, qui a amené à ce que massivement, en fait, les hôpitaux deviennent des énormes bureaucraties parce qu'on passait plus de temps à savoir les actes un par un qui avaient été faits que de s'occuper de l'attractivité de l'hôpital. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. On a 7500 postes aujourd'hui, ouverts, financés, qui attendent des aides-soignantes, des infirmières.
Justement,
on a augmenté de 6000 le nombre d'infirmières actuellement en formation dans 2 ans. Dans 1 an et demi, elles seront là, prêtes à travailler.
Justement, Valérie Pécresse, dans son programme, explique qu'elle veut supprimer 200 000 fonctionnaires dans la bureaucratie essentiellement et rajouter 50 000 fonctionnaires de terrain. Je vous accorde que c'est peu. Vous, qu'est-ce que vous faites pour les dysfonctionnements, vous nous l'avez dit, à l'hôpital, mais aussi dans la justice, dans la police, dans l'armée ?
Nous, depuis le début, là aussi, on a voulu sortir de ce que la droite a fait, au fond... La droite, depuis des années, parle des fonctionnaires en nombre et a fait du nombre de fonctionnaires un espèce de gage de crédibilité.
De totem, oui.
Comme si c'était une fin en soi, comme si dans une logique un peu de technocrate, de tableau Excel, le nombre de fonctionnaires allait réformer l'État. Objectivement, si vous regardez le bilan de ce que la droite a fait...
Et vous n'allez pas faire ça, vous.
Mais je vais vous dire surtout ce qu'on a fait. Mais ce que la droite a fait, quand même, soyons clairs, c'est que quand elle a mené cette politique, ça s'appelait la RGPP, elle avait fait de l'objectif de la réduction du fameux un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite
une forme d'entêtement. Ça a amené quand même, de fait, 12 000 policiers de moins dans les commissariats, et donc un affaiblissement de l'État régalien. Ça a amené à ce que les préfectures et sous-préfectures soient vidées de un tiers à 40% de leurs effectifs. Ça a amené quoi ? Que pendant le Covid, vous aviez un État de proximité que nous, on a essayé de réarmer depuis 2017, qui était hyper affaibli. Ce qu'on a choisi, nous, de faire avec le président, c'est de dire, au fond, qu'est-ce que les Français attendent de leur service public ? Ils attendent des policiers sur le terrain, 10 000 de plus. Ils attendent moins de monde dans les ministères qui fait de la norme et beaucoup plus de monde qui est en proximité. C'est pour ça qu'en 2022, vous aurez 5 000 hommes et femmes dans les préfectures, dans les sous-préfectures, pour que les décisions publiques se prennent au plus près des Français. Ils nous ont dit, on veut des enseignants dans les classes, là où c'est le plus difficile, on a dédoublé les classes. Ils nous ont dit, on veut des Français qui nous aident à faire nos démarches administratives, là où nous vivons. C'est France Service, c'est 4 000 hommes et femmes qui sont à 20 minutes de chaque Français, dans un lieu où on peut être accueilli pour faire ses démarches administratives, si on n'est pas complètement à l'aise avec le numérique ou si sa situation est compliquée. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, transformer l'État, c'est pas avoir, au fond, un objectif, un entêtement sur un nombre, c'est de donner de l'efficacité et de la rapidité et de la proximité au service public pour les Français. Je pense d'ailleurs, les Français, vous savez, ils ne vous jugent pas sur un tableau Excel. Ils vous jugent sur, est-ce que ma vie quotidienne s'est améliorée ? Est-ce que mes besoins sont pris en compte ? Vous savez, je suis chaque semaine, depuis maintenant plus d'un an, chaque semaine, dans un département différent, pour échanger avec les Français, des Français qui sont des retraités, des Français qui sont des commerçants,
des fonctionnaires,
mais des Français que je croise dans la rue, dans des réunions publiques, ouvertes à tous. On le fait avec Gabriel Attal, on était dans les Deux-Sèvres la semaine dernière. Et je peux vous dire que le débat que nous avons avec ces Français, ce sont des débats de réalité. Parce que moi, ma réalité, ce n'est pas la politique. Je n'habite pas Politique Land, j'habite la France. Et l'action politique que je mène, avec le président de la République, avec le Premier ministre depuis 4 ans, et ce qui fait, je pense, vraiment la force de notre engagement, c'est de rendre compte de notre action.
Et Valérie Pécresse, elle habite Politique Land ?
Ah, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tous ceux qui, autour d'elle, et elle la première, qui vous expliquent que la droite est de retour, je ne suis pas sûre que ça intéresse quiconque en France.
Pourquoi est-ce que vous bouchez tellement le nez, vous qui avez été à droite ? Quand vous parlez de la droite, on a l'impression que vous parlez de la peste.
Vous savez, moi, je suis partie en 2016 pour exactement...
Mais vous êtes partie en claquant la porte ou vous êtes partie comme une petite souris ?
Moi, je sais pourquoi je suis partie en 2016. Ouais. Parce que la droite était exactement en train de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Parler d'elle-même à elle-même. On parlait de la droite comme
si
la droite
comme ça. Et c'est pas ce que fait La République
En Marche. Ah, je peux vous dire que moi, je suis partie en 2016 consciente d'une chose, c'est que la politique qui vit dans cette réalité politique à coup de comment on conquiert le pouvoir, comment on est dans cet esprit par voie de revanche, parfois de défaite. Au fond, une démarche extrêmement narcissique. Quand vous voyez la réunion qui ouvre la campagne hier de Mme Pécresse, c'est une réunion avec les cadres du parti.
Il y a la même chose dans toutes les autres couleurs politiques.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'énergie que depuis 2017, le président de la République a déployée et qu'il déploie aujourd'hui, c'est de parler aux Français. C'est d'être pas du tout dans un truc qui est naïf ou béat en disant... la politique, c'est sur le terrain.
Valérie Pécresse, elle ne parle pas aux Français.
Bah, ce que je vois, c'est que son tour de France, c'est le tour de France des candidats à primaire. Vous voyez, quand le président se déplace, il ne va pas un coup chez François Bayrou, un coup chez Édouard Philippe.
Il n'a pas de parti, ce qui est plutôt... Il a un parti de Godillot, ce qui est plus facile
non,
pour lui.
Non, je peux vous dire qu'il a aujourd'hui autour de lui des gens qui d'ailleurs ont envie de sortir des logiques de parti. Parce que les logiques de parti, elles vous enferment, parce qu'elles vous font... Vous parlez à vous-même de vous-même, et ce qui fait pour moi vraiment le sens de la politique et qui doit réamener les Français à voter. Parce qu'on parle de, vous voyez, de tout ça entre nous, mais derrière l'enjeu...
Entre nous,
l'enjeu,
on parle à des centaines de milliers de Français qui vous écoutent et que ce soit
mais
ils mangent
ça. Mais les gens qui nous écoutent, ils ne veulent pas qu'on se parle entre nous. Mais ils veulent qu'on leur parle d'eux, qu'ils puissent juger par eux-mêmes, qu'on puisse leur rendre compte d'une action, qu'on puisse échanger sur ce qui a changé,
entre vous,
ce qui n'a pas changé.
Entre vous
et moi, je trouve que ce n'est plus du tout présent dans les partis politiques, c'est plus présent à droite. C'est pas présent non plus à gauche. Quand vous voyez que Anne Hidalgo joue son va-tout sur une primaire et pas sur une idée forte pour la France, moi j'ai quitté cette vision-là en 2016 et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne regrette en rien et le spectacle qui est donné est totalement conforme à, au fond, une droite qui n'a rien appris, rien oublié.
En attendant, vous habitez Politique Land parce que vous êtes ministre et qu'en France...
Ah non,
qu'en France, la politique est un métier contrairement à d'autres pays. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, vous vous sentez libre, Amélie de Montchalin, et que vous pourrez quitter la politique et retourner dans une sphère privée, au contraire de justement ceux que vous citez, à gauche comme à droite ?
Mais alors, évidemment. Vous savez, moi, j'ai François Fillon, à l'époque, nous traitait, nous, les gens qui s'engageaient autour d'Emmanuel Macron, comme des députés Internet. Moi, je ne connaissais personne dans ce parti qui n'existait pas. Parce que
c'est
même
grave,
pas un parti.
Docteur.
Et moi, je suis très contente.
Mmh. Enfin, vous connaissez Valérie Pécresse, puisque vous aviez travaillé avec elle.
Oui, j'avais fait un stage,
et vous l'avez
vous dire, en tant qu'étudiante, il y a 15 ans, effectivement. Et ça avait été une découverte intéressante. J'avais, à ce moment-là, vu un engagement pour une droite qui, à l'époque, se voulait humaniste, se voulait européenne, se voulait réformiste. Autant de choses qui, aujourd'hui, si vous regardez dans le positionnement, d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez beaucoup de gens de droite qui sont passés dès 2016 auprès d'Emmanuel Macron. Il y en a d'autres, d'ailleurs, aujourd'hui, qui rejoignent Horizon. Donc, fanfaronner sur la droite de retour, il y a plein d'autres.
Valérie
mais moi, je peux vous dire, juste sur votre question, vous êtes répondu.
Attendez.
Je crois qu'Amélie Montchalin voudrait me répondre. Après, on va marquer une pause et après, vous poserez votre question.
Je considère qu'effectivement, l'engagement politique, c'est pour moi une mission. Et je ne conçois pas que d'être devant vous aujourd'hui m'obligerait d'une certaine manière à exercer cette mission pendant les 25 ans prochaines de ma vie.
Une pause dans les débats d'Europe Soir. Amélie de Montchalin est notre invitée sur Europe 1 avec Alexandre Devecchio du Figaro. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec Amélie de Montchalin qui est notre invitée jusqu'à 20h avec Alexandre Devecchio du Figaro. Qui vous pose la question qu'il voulait poser, justement.
Non, parce que vous disiez la droite était humaniste. Bon, vous pensez sérieusement, d'une part, que la droite n'est plus humaniste aujourd'hui. Et moi, quand je vous écoute sur le plan économique et social, du moins, je vois plus une différence de degré que de nature entre vous et, par exemple, le programme de Valérie Pécresse.
Mais si vous voulez me faire dire qu'effectivement, je pense que nous nous occupons de sujets qui sont au cœur de la vie quotidienne, mais que certains considèrent comme étant leur monopole, ça, je peux vous dire. Moi, je ne sais pas, par exemple, je dirais une crise sanitaire, si c'est de droite ou de gauche. Je ne sais pas si soutenir l'investissement et l'industrie dans notre pays, c'est de droite ou de gauche.
Mais l'écologie, elle est de droite ou de gauche?
Mais bien sûr, c'est absurde, cette histoire de droite ou de gauche. C'est absurde.
Bah, l'écologie, elle est à gauche, c'est ancré, c'est stabilo-bossé par les Verts.
Si l'écologie, ça crée des emplois, alors ça devient du coup un thème de droite? S'ils s'occupaient de la sécurité des gens, c'est un thème de droite, alors ça veut dire que quand on s'occupe de la sécurité d'un quartier populaire, ça serait un thème de gauche? Cette vision binaire où, quand vous étiez de droite, il fallait s'occuper de certaines choses pour envoyer des signaux à votre électorat, tout comme aujourd'hui, on a l'impression que Mme Pécresse et d'autres répètent des choses que disait François Fillon pour faire bien comprendre à l'électorat de droite que la droite, soi-disant, est de retour. Moi, je ne crois pas à cette vision binaire des choses. Je pense qu'il y a énormément de sujets de la vie quotidienne des Français qui méritent une action. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait depuis 4 ans, c'est de prendre méthodiquement les sujets qui, aujourd'hui, sont au cœur des préoccupations des Français et essayer de trouver des solutions.
Pour le coup, sur le plan régalien, envoyer des signaux non pas à l'électorat de droite, mais aux Français qui ont besoin de plus de fermeté, qui expriment un besoin de plus de fermeté, d'autorité, c'est pas nécessairement de droite. C'est quelque chose que peut-être la Macronie n'a pas fait suffisamment.
Ah bah, quand on est aujourd'hui le gouvernement qui a le plus augmenté les moyens de la justice. On est le gouvernement qui a réformé la fameuse ordonnance, vous savez, du droit des mineurs.
Enfin, vous venez de dire que les moyens ne faisaient pas tout.
Non, mais quand vous réformez le code, l'ordonnance de la justice des mineurs.
Non, c'est plus le cas.
C'était justement des jugements qui arrivaient des mois, voire des années plus tard. Aujourd'hui, nous avons divisé par 4 ou 5 les délais de jugement. Nous sommes le gouvernement qui, après la coupe sombre des années Sarkozy, du nombre de policiers, et ensuite une forme d'acceptation de la gauche de cette fatalité, avons remis 10 000 policiers et gendarmes dans les commissariats de France. Nous sommes le gouvernement qui avons pris un sujet qui était totalement hors des radars, qui s'appelle la violence faite contre les femmes. C'est aussi un enjeu de fermeté, c'est aussi un enjeu de vie quotidienne, j'allais dire, qui montre qu'il y a la sécurité ou pas. Quand vous avez dans notre pays tant et tant de femmes qui vous disent ne pas se sentir en sécurité, c'est un enjeu que nous avons pris à bras-le-corps. Et souvenez-vous, quand en 2017, le président de la République en a parlé pour la première fois, l'ensemble de la classe politique avait trouvé que c'était un bien drôle d'idée et que c'était probablement une invention de sa part que de vouloir en parler. Et donc, moi, je n'ai pas du tout à rougir de notre bilan. Nous sommes le gouvernement qui mène aujourd'hui la lutte contre la drogue comme elle n'a jamais été menée. Nous avons réorganisé totalement notre manière de faire et nous n'avons jamais autant saisi et autant arrêté et de dealers et de trafiquants. Donc, que ce soit difficile, c'est évident. Qu'on n'ait pas terminé, c'est évident. Mais
ça veut dire qu'il faut un deuxième quinquennat ?
Mais évidemment qu'il y a plein de sujets donc qui vont pas été réglés en 5 ans. La politique, c'est pas de la magie. Je vous dis pas, je vous présente devant vous une ministre du gouvernement qui vous dit tout est réglé, c'est bon. Évidemment qu'il y a plein de choses à continuer. Évidemment qu'il y a des choses qui d'ailleurs.
Non, parce que le président ne s'est toujours pas déclaré, donc je vous pose la question.
Quand il voudra se déclarer. Ce que je vois moi, par exemple, vous voyez, je porte une réforme qui s'appelle la réforme de la haute fonction publique. C'est une réforme dont on a parlé pendant 30 ans, dont personne ne pensait qu'un président jamais ne la ferait, puisque au fond, c'était une réforme qu'il fallait annoncer sans ne jamais la faire. Mmh. Ni Sarkozy, ni Chirac, ni Hollande. Ça remonte à 1972, les premières intentions de vouloir réformer la haute fonction publique. Cette réforme, nous la faisons aujourd'hui. En 2022, la manière dont on recrute, dont on forme, dont on organise la fonction publique sera différente. Évidemment, vous imaginez bien que pour qu'elle se mette pleinement en œuvre, que la culture administrative change, que ce ne soit pas la norme qui prime, mais la mise en œuvre, pas les ministères parisiens, mais le terrain. Évidemment, des choses vont se produire dès là, 2022. Mais il va bien nous falloir du temps.
Mais est-ce que c'est vraiment un changement systémique que de changer le nom de l'ENA
C'est pas le nom. Hein.
Et de changer, de supprimer un certain nombre de corps pour créer un corps unique. Est-ce que ça va créer vraiment plus de souplesse?
C'est un changement systémique de faire en sorte que tous nos fonctionnaires commencent leur carrière dans un poste opérationnel. C'est un changement majeur de dire que les rôles d'inspection, de jugement et de contrôle ne sont pas ce qui est le plus important ni pour la France ni dans une carrière, mais d'être sur le terrain, d'être au contact des Français et de faire en sorte que le but, ce n'est pas d'écrire des circulaires, c'est que la vie quotidienne change. Ça, c'est un changement, vous le savez, très important parce que tout, depuis même parfois, avant même, ça remonte parfois à l'ancien régime, d'avoir mis les rôles d'inspection, de jugement et de contrôle comme ceux qui étaient les plus prestigieux,
les grands corps de l'État,
les fameux grands corps de l'État. Ça fait des années et des années qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça a grippé le système et que les hommes et les femmes qui sont en contact avec les Français, qui sont sur le terrain, eh bien, ils font des moins belles carrières. Ça, on l'a changé et on l'a changé par une réforme qui va donc être mise en place totalement. Je ne suis pas en train de vous faire des annonces. Hein. Ça va se mettre en place totalement au 1er janvier. Et donc, évidemment, que, vous voyez, une réforme de cette ampleur-là, il y a ce qu'on fait maintenant, ce qu'on rend irréversible, et puis il y a le temps qu'il faudra pour qu'elle atteigne ses pleins effets.
Dans le cas d'un second tour Pécresse-Macron, Amélie de Montchalin, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de larmes dans cette élection. Il y a eu des larmes en 1981, à l'élection de François Mitterrand, des larmes de joie chez les socialistes, des émeutes presque. Aux États-Unis, en 2016, il y a eu des larmes, des cris d'orfraie quand Donald Trump a été élu. Il y a eu des larmes dans le camp d'Hillary Clinton. Là, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, il n'y aura pas de larmes parce que, et les observateurs le disent, et parce que on dit souvent, ben voilà, finalement, il y aura ça sera à la marge, le programme de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Moi, je pense qu'on est très différents. On est très différents.
Anne Hidalgo a encore dit aujourd'hui, vous aurez un quinquennat, Macron-Pécresse, que ce soit l'un ou l'autre, même dans le même sac.
Moi, je vois aujourd'hui que Madame Pécresse se réclame de Thatcher, se réclame de François Fillon.
Il n'y a pas de Thatcher chez Emmanuel Macron?
Ah, je pense que quand Madame Pécresse parle de Thatcher, elle nous fait référence au fameux « le sang et les larmes » que François Fillon voulait nous mettre en avant pour dire « je serai un vrai réformateur ».
Chacun a sa lecture.
Oui, il y a quelque chose qui m'inquiète, vous savez, dans quand Valérie Pécresse se présente comme une âme de fer. Moi, j'ai l'impression que derrière le fer qu'elle présente, il y a beaucoup d'idées assez rouillées, qui sont des choses dont on a connu la rengaine depuis parfois 15 ans. Quand elle nous dit « moi, je suis là parce qu'il y a des idées de 2007 que je vais mettre en œuvre quoi coûte que coûte. Mmh. » Moi, je préfère le « quoi qu'il en coûte » au « coûte que coûte ». Vous savez, il y a un exemple politique d'une forme d'entêtement et puis d'un jeu politique. Comme je disais, il y a un peu politique land aujourd'hui. Mmh. Ça s'appelle le Brexit. Mmh. Vous avez eu à ce moment-là, par entêtement, par « on va montrer ses muscles », une expression que Mme Pécresse utilise beaucoup, par volonté de jouer, vous voyez, un peu par tactique, de faire du rassemblement avec des gens qui, au fond, n'avaient pas grand-chose à voir avec les uns, avec les autres. Une forme de pari politique a été fait à un moment donné dans ce pays, à l'époque dirigé par les conservateurs britanniques.
Il y a eu un choix souverain des Britanniques.
Et qui a amené à la plus grande catastrophe, je pense, économique, pour un pays qui, en sortant de l'Union, s'est coupé.
C'est de la rhétorique. L'Angleterre va mieux économiquement en termes de croissance, de chômage. Pardon que nous.
Non. Ça, c'est pas la rhétorique, ça s'appelle
les fake news. Leurs salaires augmentent.
Ah bah, les salaires augmentent dans un pays qui n'investit plus, qui n'exporte plus, qui n'importe plus.
La fake news, c'est qu'on nous a expliqué quasiment que l'Angleterre allait disparaître de la carte au moment du Brexit, et on voit qu'il se passe rien.
Je pense que vous n'avez pas été à Londres. J'ai eu
la possibilité d'y aller. Est-ce que c'est pas une période de transition?
Quand vous avez un pays qui manque d'essence dans ses stations-service, je pense qu'on doit pouvoir, parce qu'on manque de chauffeurs, de camions-citernes, parce que par idéologie, on ne veut plus faire venir des chauffeurs de poids lourds des pays d'Europe, parce que l'idéologie a dit, au fond, nous, tout seuls, on a tout à fait de quoi faire fonctionner le pays, et que vous donnez en urgence des visas pour que des gens conduisent des camions-citernes.
C'est pas l'idéologie,
c'est que l'entêtement
britannique
politique
qui voulaient moins d'immigration et des meilleurs salaires pour les Britanniques.
Et bah, du coup, aujourd'hui, ils ont moins de croissance, ils n'ont pas d'essence dans les stations-service, et ils ont surtout un pays qui est en train de se replier sur lui-même, en train de s'affaiblir, alors que, pour refaire le lien avec votre question, Je pense qu'on a une grande différence. La grande différence, c'est que le président de la République a toujours dit « Je ne suis pas celui qui mettra les Français comme un décor. Je ne suis pas celui qui considère que la politique est un jeu en soi. Je m'occuperai de la vie quotidienne. Je rendrai des comptes sur la vie quotidienne. Je ne vous promets pas la magie, mais c'est, au fond, un travail ingrat, méthodique, fait de choix qui sont jamais en soi... voyez, c'est pas la radicalité de vos annonces qui compte. C'est l'action que vous menez au jour le jour. Et ce que j'entends à coup de dame de fer, courage à aller jusqu'au bout, le coûte que coûte, et au fond, une forme de rigidité avant même que l'action ait commencé, je pense que ça peut nous emmener, notre pays, dans des situations, quand d'autres pays ont mené des politiques en sens, qui ont conduit objectivement à l'échec plutôt qu'à la réussite.
Est-ce que Emmanuel Macron a appris des gilets jaunes? Parce que là, dans le portrait que vous faites de Valérie Pécresse, ça me rappelle, moi, l'Emmanuel Macron des débuts qui voulait mener ses réformes coûte que coûte.
Bah, je pense que, de toute façon, effectivement, on a appris. Mais surtout, on a accepté d'apprendre. On a accepté de réajuster les choses. On a accepté... Je vous donne un exemple.
Vous voulez dire, contrairement à Valérie Pécresse, qui n'accepte
mais
pas...
Mais qui dit, depuis le débat, si vous m'élisez, ce que vous aurez, c'est que j'irai, je tracerai mon sillon, quoi qu'il arrive, sans regarder, au fond, le monde qui change. Effectivement, mais le président l'avait toujours dit, c'est pas se renier que de s'adapter. Sur les sujets dont on a parlé sur l'État, je vous donne un exemple. France Service. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce que c'est France Service. France Service, c'est pour tous les Français de notre pays aujourd'hui, 2000 lieux d'accueil à moins de 20 minutes de chez eux pour faire leur démarche administrative du quotidien. C'est, avec Jacqueline Gourault, une initiative que nous menons avec les élus locaux, avec les maires, avec des acteurs de terrain, des associations, un travail que nous menons effectivement depuis la crise des Gilets jaunes. Parce qu'on a considéré que la grande fatalité que tout le monde avait acceptée en disant les services publics de proximité ferment, mais comme il y a le numérique, tout va bien se passer, eh bien nous avions à ne pas nous renier au sens de dire oui, on veut des services publics efficaces, mais à écouter cette demande, la considérer comme légitime. Ça veut dire qu'effectivement, il y a 4000 hommes et femmes dont le métier quotidien est d'accueillir ces Français là où ils vivent. Aujourd'hui, c'est 2000 lieux en France. Ce sera 2500 à la fin de 2022. Ce sera dans tous les cantons de France, vous avez un lieu qui peut vous accueillir. Et j'en parle ce soir parce que je pense que ça peut répondre à des besoins. Vous avez une carte, évidemment, disponible publiquement et les élus peuvent vous renseigner dans chacun de vos territoires sur là où se trouvent ces lieux. Heureusement qu'on s'est adapté. Heureusement qu'on s'est ajusté. Je vous donne d'autres exemples. Les pensions alimentaires. On voulait que les femmes puissent toucher leur pension alimentaire coûte que coûte. Parce qu'il nous semble que c'est un enjeu de pouvoir d'achat, de dignité et de vie quotidienne. On avait lancé une réforme, il y a quelques temps, avec un système qui n'a pas bien marché, n'a pas fait ses preuves. Ben, on ne s'est pas entêté. On a ajusté le tir en 2022. Par défaut, les pensions alimentaires seront versées par la CAF. Et c'est la CAF qui ira chercher, quand c'est monsieur notamment qui ne paye pas, eh bien, qui ira se faire rembourser.
Le premier...
Ça s'appelle... Ce n'est pas du pragmatisme, vous voyez, qui aurait perdu toute idéologie politique. C'est de considérer que servir les Français, c'est ne pas s'entêter, c'est de faire face à la réalité. Et la réalité, elle peut être complexe, elle peut être changeante. Les Français peuvent vous dire des choses différentes. D'ailleurs, pour ça que je mène ce travail de terrain chaque semaine, pour aller écouter ce que les gens ont vu, qui se passait avant, qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils attendent encore, où est-ce qu'on doit faire mieux, et considérer que la politique sonore allait parler aux électeurs plutôt que de rester dans des engagements qui sont des grands slogans et où vous envoyez des signaux à l'électorat plutôt que de parler aux Français.
Vous parlez de slogans, vous parlez de l'ancienne politique, souvent de la droite, La République En Marche, dit ça c'est une ancienne politique, ce sont des vieilles recettes, ce sont des choses qui ne marcheront plus parce qu'il faut des réformes structurelles. Est-ce que vous, à La République En Marche et à la majorité, vous avez appris aussi à parler autrement aux Français? On a souvent critiqué le président parce qu'il était parfois un peu jupitérien, parce qu'il s'adressait de manière un peu martiale. Est-ce que là-dessus aussi, on a compris que finalement, on était 67 millions tous ensemble et pas seulement un pouvoir central qui, regardez la défiance d'ailleurs, parce que c'est même plus une peur ou une crainte, c'est une défiance des Guadeloupéens et des Martiniquais face au pouvoir central sur l'histoire de la vaccination.
Mais ça, totalement, quand vous menez une politique comme la nôtre de différenciation, de dire la politique, elle est à la fois nationale, mais ça ne peut pas être tout à fait la même chose en Guadeloupe, en Corse, dans la Creuse, dans les Ardennes, et qu'on a besoin de l'ajuster. Quand nous faisons avec Gabriel Attal ces échanges, c'est-à-dire à portée d'engueulade, à hauteur d'hommes et de femmes, dans des échanges où les gens nous parlent de leur réalité, on n'est pas là pour les convaincre qu'ils ont tort, on n'est pas là pour dire qu'on a raison, on est là pour écouter, pour échanger, pour débattre, pour voir ce qui s'est passé depuis quelques années, depuis quelques mois. Est-ce que ce qu'on fait fonctionne dans leur vie? Moi, je crois à cette politique-là. À nouveau, c'est pas béat de dire ça. C'est ça qui fera que les Français considèrent que ça sert à quelque chose. Si cette politique, elle ne se met pas à l'échelle du terrain, à l'échelle d'homme à homme dans un échange, ou de femme à femme dans un échange humain, la politique, elle perd de son sens, les Français ne votent plus, et considèrent que tout ça, c'est un débat de slogans, un débat de promesses qui n'ont plus à être écoutées parce qu'elles ne se mettent jamais en œuvre. Et donc nous, on a décidé de faire résolument différemment, et on va continuer.
Merci beaucoup Amélie de Montchalin, merci Alexandre Devecchio.
Merci.
C'est Europe 1, 19h59. Lionel Rousseau à suivre après le journal de 20h.